corps. Et je pense que dans un système idéal comme ça, je pense que les femmes se sentiraient plus à l'aise d'intégrer ces métiers-là parce que on se sentirait pas obligé d'aller à une cadence qui n'est pas vivable en se mettant en danger.
Et sur le sexisme ?
Je dirais qu'il est présent en forêt comme de partout, pas plus. Et moi, vraiment dans le petit cadre privilégié de ma formation, en l'occurrence, moi je l'ai très bien vécu et on était très bien accueillis ma collègue et moi et on se sentait pas du tout, infériorisé. Après, dans les contextes de stage, comme en formation, ce qui revenait souvent, c'était que c'était chouette qu'on soit là parce que ça communiquait mieux dans l'équipe. Et ça, il y a dans plusieurs situations de stage où ça m'a été dit, pas forcément par rapport à moi, mais ah oui, quand on avait telle collègue femme, c'était bien, c'était plus apaisé, tout ça. Donc, souvent, il y avait ce discours des hommes qui nous prenaient pour des bonnes médiatrices, mais ce qui est vrai, je pense. Et après, les situations où j'ai l'impression d'avoir plus subi du sexisme venaient de l'extérieur, des regards extérieurs des gens sur me voyant bosser en forêt. Mais moi, avec les collègues, je ne le ressentais pas.
Je te propose encore une lecture, si tu es partante, cette fois pour aborder le thème de toute la sémantique liée aux végétaux et à la forêt, qui bien souvent nous manque, en tout cas quand on peut être citadin, comme certainement une bonne partie de cette assemblée, et qui fait partie intégrante de ton apprentissage.
Oui, c'est un fragment qui s'appelle « Langue étrangère ». Et bon, en l'occurrence, beaucoup de mots sont en latin, mais pas que. Je considère que ma manière d'aborder la forêt, c'était apprendre à lire la forêt. Parce que moi, en tant qu'écrivaine, j'avais appris à lire et le langage, c'est mon outil, c'est mon endroit. Par contre, au début, en forêt, je me suis dit, mais je suis analphabète. En fait, il y a énormément de signaux visuels, auditifs, sensoriels en tout genre, et je ne sais pas les décrypter, je ne sais pas les lire. Et donc, apprendre les noms des végétaux, des animaux, c'est une manière d'apprendre à les voir aussi. Et ça, moi, c'est quelque chose qui continue de me réjouir à fond dans mon apprentissage de la forêt. C'est d'acquérir ce vocabulaire. D'une part, c'est un peu un sésame professionnel, parce que quand on commence à parler à des forestiers, s'ils voient qu'on connaît quelques mots techniques, alors c'est bon, on peut commencer à parler. Mais comme ça, c'est valable dans tous les milieux socio-professionnels. Mais par ailleurs, moi, ça m'aide à regarder mieux la forêt. Donc voilà, c'est un apprentissage que je poursuis. Et donc là, c'était le début. Journée reconnaissance des végétaux avec Loïc, notre formateur en botanique. Hyper geek, hyper sympa. Avec lui, on devra faire un herbier. Passage obligé pour celles et ceux qui poursuivront avec la formation diplômante. Pour l'instant, on va apprendre à identifier. C'est déjà tout un art. Loïc nous ramène plein d'échantillons d'essence qu'il numérote de 1 à 20. Consigne. En choisir un, le décrire, le dessiner, puis passer au suivant. Je commence par l'aulne glutineux, Alnus glutinosa. Organe femelle, boule granuleuse noire. Feuilles arrondies, bien nervurées. 1000 ans que j'ai pas dessiné. J'adore ça. Se concentrer sur le moindre détail, le répercuter sur papier, dans toute la patience et la lenteur de l'arbre. Je voudrais déjà y passer le reste de mes journées. Loïc nous ramène 8 exemplaires de la flore forestière française, plus couramment appelée la Bible du forestier. Des pages entières de descriptions sur papier ultra fin. Ça devient technique. Je découvre la feuille décurrente. C'est une feuille qui se prolonge au-delà de son point d'insertion habituel. Autrement dit, son limbe ou son corps n'est pas nettement séparé de sa tige. comme les lobes d'oreilles chez certaines personnes, ce qui me met toujours un peu mal à l'aise. On distingue ce qui est pubescent, c'est-à-dire recouvert d'un duvet de poils fins et courts, de ce qui est pubérulent, c'est-à-dire comme pubescent, mais à peine visible. Tandis que ce qui est tomenteux est couvert de poils mous, un duvet cotonneux. Voilà de quoi ajouter du vocabulaire dans le débat des femmes à poils et celles qui n'osent pas.
Merci. Langues étrangères. Il y a tout un jeu qui est assez savoureux sur tes titres. On ne peut pas les appeler des chapitres. Je ne sais pas comment tu les désignes. Des copeaux, ce sont tes copeaux de bois. Je vais te lancer une dernière question sur ton rapport à l'écriture. Le temps que vous commenciez à vous chauffer, parce qu'après c'est vous, la parole est à vous pour vos questions, vos remarques, vos retours sur ton rapport à l'écriture. Tu nous disais, enfin, quel lien tu fais avec la poésie ou avec en termes de aussi d'inspiration. Quand on a échangé avant cette rencontre, tu me disais que tu découvrais maintenant, par exemple, ce qu'on appelle le nature writing, mais que ça faisait pas partie, que ça, c'était maintenant que ça arrivait, que ça faisait pas partie de tes influences d'avant, et que par contre, par exemple, tu avais été très marqué par, je sais pas si vous avez lu ce livre, À la ligne de Carnet d'usine de Joseph Pontus, où on est aussi sur une écriture en copeaux, pourrait-on dire, avec pas mal de liens entre prose et poésie, et puis une immersion en usine, dans des usines d'abattage en Bretagne. Est-ce que tu peux nous parler comme ça un petit peu de tes influences et de la manière dont tu travailles ton écriture, bon, en attendant les questions en préparation?
Oui, moi j'avais plutôt une formation classique. Enfin, j'ai fait un peu des études de lettres, notamment une prépa littéraire, et là vraiment j'ai bouffé du classique, quoi. Et à l'époque, en fait, je savais pas trop que la littérature contemporaine existait. Bon, ça remonte, hein, mais et en fait, il y a quand même eu un moment dans ce parcours-là où j'ai un prof qui m'avait proposé de faire un exposé sur un livre d'Olivia Rosenthal, un livre qui s'appelle On n'est pas là pour disparaître. Et ça avait un peu été mon choc de littérature contemporaine, voilà, quand j'avais 18 ans. Et c'était une écriture hybride, quoi, c'était ni du roman, ni de l'essai, ni de la poésie. Il y avait des passages en prose plus classiques, des passages très fragmentés aussi. Puis c'est un livre sur Alzheimer, donc à la fois sur le médecin qui portait ce nom et sur une personne atteinte de cette maladie. Et donc il y avait cette disparition du texte qui allait avec la disparition de la mémoire, et enfin cette espèce de mélange fond-forme, cette écriture toute fragmentée m'avait vraiment plu, enfin, et avait, je pense, ouvert des possibles en moi, enfin, dans un petit coin de ma tête, quoi, à l'époque. Et après, bon, mais c'était une période où j'écrivais pas vraiment, quoi. Enfin, parce que j'ai mis un peu de temps avant de me dire que c'était l'écriture que je voulais pratiquer, enfin, que c'était là le moyen d'expression qui me correspondait le mieux. Mais bon, il se trouve que quand j'ai pris l'écriture au sérieux, j'ai fait un master de création littéraire, et cette même Olivia Rosenthal a été ma tutrice. C'était elle qui avait co-créé ce master, et donc j'ai bossé avec elle, et je pense qu'en termes d'influence, elle a été présente, enfin, sans que ce soit une volonté de sa part d'infléchir mon écriture ou quoi. Mais en tout cas, je pense que il y avait quelque chose dans sa sensibilité au texte dans laquelle je me sentais bien. Et dans cette fluidité des genres, de pas forcément choisir entre le roman, la poésie, l'essai. Et donc ça, voilà, je pense que ça a un peu infusé. Et effectivement, après, j'ai découvert un peu des textes de poésie en prose, de vers libres, dont le texte de Joseph Pontus, là, À la ligne, qui effectivement aussi m'a énormément plu, à la fois parce qu'il, dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire le travail à l'usine. C'est très nocturne comme livre, parce que ce sont beaucoup d'horaires de nuit, et donc moi c'est tout un monde que je connais pas, j'ai jamais bossé à l'usine, et j'étais très contente d'avoir le témoignage de cet homme, quoi, pour m'en parler, et dans cette forme en vers libre que je trouve hyper fluide à la lecture, dans laquelle je peux vraiment glisser mon souffle en tant que lectrice, et voilà. Et moi, de fait, par défaut, j'écris en vers libre. Enfin, c'est quand je prends des notes, je vais à la ligne comme ça. Et en fait, ce livre, c'est vraiment très issu de mes notes, quoi. Et donc, c'est un peu mon mode d'écriture par défaut. Et depuis, j'ai découvert d'autres livres en vers libre qui m'ont tout autant marqué, ému. Je pense là à un texte d'un psychiatre italien qui raconte son métier aussi, qui s'appelle Paolo Milone. Et son livre traduit en français, c'est L'art de lier les êtres. Et c'est un psychiatre qui revient sur plein de moments de sa carrière avec ses patients, pareil, en vers libre. Et c'est aussi un texte qui m'a bouleversée. Donc, je peux pas trop théoriser dessus, mais c'est une forme qui me, moi, dans laquelle je me glisse tout à fait, quoi.
Avec cette question du souffle et du rythme qui habite beaucoup ton écriture, j'imagine que vous avez pu quand même l'entendre là à travers ces extraits. La parole est à vous pour des questions, des remarques.
Bonjour, merci pour tout ça, c'était super intéressant. Est-ce que pendant ton stage et tes formations, tu as rencontré des personnes qui sont beaucoup passionné vraiment de la forêt et qui t'ont inspiré encore plus et qui t'ont vraiment transmis cet amour de la forêt et que peut-être tu gardes en contact aujourd'hui dans cette quête de que tu continues encore.
Max Antoine là, que vous avez un peu entendu au début, donc il faisait un peu le mariole, mais c'était aussi quelqu'un de vraiment passionné par la forêt dans son ensemble et pas que par ses tronçonneuses. Et qui nous a vraiment transmis cette passion-là. Et quand je dis qu'il faisait pas que le mariole, c'est vrai, il y a plein de moments où, on était sur un chantier et il allait nous arrêter pour faire un moment de, un quart d'heure de reconnaissance des essences d'arbres, de plantes, ou écouter tel et tel oiseau et s'entraîner à les identifier. Et il avait une attention à tous les détails, quoi. Et c'était le cas aussi du formateur en botanique qui est évoqué aussi là, qui était ultra passionné et c'est hyper, enfin vraiment il savait transmettre ça aussi. Et après au niveau du fait de rester en contact, j'ai gardé quelques contacts à la fois avec des collègues, à la fois le formateur, là, Max-Antoine, je lui ai acheté une tronçonneuse ensuite, donc on a fait du business. Il m'a fait une promo comme prévu. On a un contact sporadique. Je savais qu'a priori, je n'allais pas devenir bûcheronne, parce que c'est tout un investissement de temps, de physique, matériel, qui n'est pas compatible avec la vie que j'ai et que j'ai envie de continuer d'avoir en étant aussi écrivaine. Par contre, là, en me formant en gestion forestière, je tombe aussi sur des personnes avec qui je partage la vision. J'ai un maître de stage qui est génial là dans l'Ain. Lui, c'est quelqu'un d'inspirant. C'est vraiment vraiment, c'est un puits de connaissances et aussi un exemple d'humilité vraiment très, très chouette. Et ça, c'est un profil de forestier que je rencontre quand même assez souvent. Enfin, tout à l'heure, je parlais des gars qui étalent leur science, mais c'est vraiment pas que ça. Il y a aussi beaucoup de forestiers qui sont vraiment très compétents et qui sont plutôt silencieux. Enfin, on a un peu souvent ces exemples de forestiers taiseux, mais c'est vrai, moi c'est quelque chose que j'apprécie aussi quand on a la chance de passer du temps avec eux. On n'est pas dans le bavardage souvent, mais par contre c'est des gens qui ont un sens de l'observation très très accru et puis qui sont passionnés, quoi. Et ça, c'est vrai que, enfin, moi, dans des milieux que j'ai fréquentés avant, ou même mes parents qui n'ont pas du tout fait des métiers passion, j'avais rarement des échanges comme ça avec des gens qui ont envie de parler de leur sujet. Et même pendant les pauses, on continue de parler forêt. Enfin, c'est vraiment toute leur vie, quoi. Et voilà, ça c'est inspirant. Ouais.
Bon,
alors, comme on enregistre, sinon je peux donner ce micro. Normalement, c'est juste un hop, 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 en attendant.
Merci. Moi, je n'avais pas nécessairement de questions. Je voulais juste vous remercier pour votre démarche et votre témoignage, qui me touche particulièrement, parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans le voyage, et il y a 8 ans, j'ai fait une reconversion pour être paysagiste. Et je me suis beaucoup retrouvée dans votre description du paysage, quand vous parlez justement du temps de repos en formation, de la place de la femme dans ce milieu. Alors moi, j'ai l'impression que ça évolue quand même un petit peu plus dans le monde du paysage. En plus, je le fais à vélo, donc c'est vrai que quand j'arrivais sur mes chantiers, on me regardait un peu bizarre parce que les clients avaient l'habitude de voir des gens arriver en camion à trois, des bons hommes, et là ils voient une nana qui arrive à vélo, donc il y avait un regard parfois un petit peu particulier. Et maintenant, ça fait 6 ans que je travaille dans ce métier, et je trouve que le regard change justement, et c'est agréable, il y a de plus en plus de femmes dans le métier. Donc, et il y a le rapport au physique aussi, où effectivement on n'a pas la même manière d'aborder les choses. On va être peut-être un petit peu plus... Enfin, c'est pas que les hommes ne sont pas réfléchis, mais on va être obligé de penser différemment nos postures. Et je trouve que ça s'entend bien dans ce que vous dites. Et puis c'est un monde où finalement on se rend compte qu'on connaît peu de choses sur le végétal et où on est en permanence en apprentissage, et je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc merci pour ça, et puis j'ai hâte de vous lire.
Merci aussi pour ce témoignage. Et j'ai l'impression, dans ce que vous dites, j'imagine les regards surpris des clients ou des collègues en vous voyant. Après, je pense qu'il y a un peu le truc de faire ses preuves. Enfin, en fait, que les gens soient surpris, c'est pas grave. Enfin, ensuite, vous vous mettez à bosser, et puis si vous bossez bien, ça roule, j'ai l'impression.
Ouais, c'est complètement ça. Mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'avoir un besoin de fournir un petit peu plus que les hommes pour quelque part se légitimiser vis-à-vis aussi bien des collègues que des clients. Mais une fois que c'est fait, franchement, le contact est super, quoi.
Ouais, ça c'est. J'en en discutais avec une copine charpentière. Elle me disait la même chose en charpente, que oui, en fait, en tant que femme, elle a l'impression de se mettre deux fois plus la pression, et pour faire juste pour faire cette preuve et se sentir légitime à être là, alors qu'il y a juste à être là a priori. Mais donc oui, ça. J'espère que, je sais pas, dans 30 ans, ça sera plus le cas.
Oui. Non, on peut l'espérer.
Bonjour et merci. En tout cas, j'ai adoré. Moi, j'ai une question qui me chafouine là. Tout à l'heure, tu as dit qu'après la chasse, après les battues, on laissait le gibier en plan. Et que ça ne pouvait pas être exploité dans les écoles, où on ne pouvait pas manger ce qu'on chassait. C'est un peu, ou j'ai mal compris, je ne sais pas. Mais en gros, que tout le. C'est du gâchis, quoi. Et ça me fait mal aux tripes, en fait. Et je me dis, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation derrière ? Est-ce que c'est des conflits politiques locaux ? Est-ce que c'est peur sanitaire ? Est-ce qu'il y a des explications à ça ? Ou c'est juste parce que personne n'a pensé à le faire ? Il manque une structure ?
Non, c'est... Alors, je suis pas experte sur le sujet. Et si quelqu'un dans la salle s'y connaît mieux, je viens céder la parole. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est que pour que ça aille dans les collectivités, la nourriture, il faut que ça respecte une certaine charte sanitaire. Et là, le gibier en forêt ne permet pas d'assurer qu'il n'y a pas de maladie, qu'il a vécu d'une certaine façon, qu'il a été nourri d'une certaine façon, et donc on peut pas certifier la qualité de la viande. Et après, en tout cas, c'était comme ça dans cette zone-là, là, en Seine-et-Marne. Il y a peut-être des endroits où c'est mieux, je sais pas, organisé, cadré, contrôlé, et j'imagine qu'il y a quelque chose de possible. Mais là, pour l'instant, c'est pas organisé pour. Donc, les chasseurs se partageaient une partie de la viande quand même, mais c'était des quantités bien trop grandes par rapport aux capacités à les manger et à les stocker. Donc oui, il y avait un équarisseur qui était là et qui s'en occupait, mais ça s'arrêtait là ensuite, quoi. Et oui, moi, je trouve ça déplorable aussi. Enfin, on souffre de malnutrition, il y a des gens qui n'ont pas assez à manger, et de voir toute cette viande qui est jetée, oui, je trouve ça terrible en soi aussi. Mais bon, c'est pour des histoires d'hygiène, quoi.
Il y a peut-être quelque chose à inventer. Là où la nature n'aime pas le vide, donc on va essayer de remplir ce vide. Merci.
Oui, bah, puis, moi, je pense que souvent, les leviers sont financiers. Donc s'il y a un moment, un business à se faire avec ça, c'est ce qui pourra peut-être accélérer les choses.
Bonjour, Eric Guillaume. Moi, je travaille au Muséum d'Histoire Naturelle. Hop, ici. Je ne peux pas en intervenir. En fait, c'est pour des raisons sanitaires. Si jamais vous ne passez pas par l'abattoir, vous ne pouvez pas manger de la nourriture. Voilà, ouais, il faut passer par l'abattoir, sinon il faut que ça respecte des normes sanitaires. Toute une chaîne, surtout si ça arrive après en collectivité territoriale. Là, c'est encore plus drastique. Hein. Et puis, il faut savoir que le gibier est porteur de parasites. Beaucoup, beaucoup de parasites, de maladies, que ce soit des parasites extérieurs ou de maladies virales ou bactériennes. Voilà. Donc, il faut vraiment respecter ces chaînes sanitaires, en tout cas. Et c'est pour ça qu'il laisse. C'est vrai que ça pose aussi question, parce que ça peut être aussi source de foyer de maladies si on laisse un trop gros tas de gibier en même temps. Après ça, ça reste à définir. Mais je crois que vous disiez qu'il y avait.
La viande est
jetée. Il y a l'écarissage qui était partagé, peut-être, non ?
Oui, après, en fait, il y avait des sacs poubelles. Enfin, la viande allait à la poubelle. Enfin, c'était dans des conteneurs.
En écarissage, j'imagine.
Ouais.
Oui, bah, c'est ça. Ça c'est... Parce que sinon, ça peut être vraiment porteur de maladies si on laisse trop la viande en foyer comme ça. Et ça pose question souvent quand les chasseurs laissent des restes, et notamment les entrailles, qui peuvent être porteurs de maladies aussi. Donc, ça a toujours posé question sur ce schéma-là.
Non, non, ils faisaient ça proprement. Ouais. Mais, ils exportaient les carcasses. Ouais.
Moi, j'avais une petite question. Donc, on a l'impression là qu'on est sur une coupe raisonnée. Aujourd'hui, on voit aussi un phénomène. Alors, c'est dans la télé, hein, mais avec des coupes très violentes, avec des bulldozers. Comment c'est perçu par les gens qui c'est dans les formations ? Parce qu'on a l'impression que c'est pas les mêmes mondes.
Ben, là, effectivement, moi, c'était une formation d'abattage manuel. Enfin, manuel, donc avec une tronçonneuse, mais mécanisée. Mais j'étais pas dans une formation de conductrice d'engin. Et dans ces formations-là, les gens apprennent à conduire des abatteuses, notamment. Et donc c'est ces abatteuses dont vous parlez, hein, qui souvent effectuent des coupes rases, pas que dans le sens où on peut demander à une abatteuse de faire une coupe sélective, d'aller prélever des arbres qui ont été sélectionnés. Et bon, pareil, moi j'essaye d'avoir un regard assez nuancé sur ces abatteuses. Comme beaucoup de machines, elles remplacent un travail qui, quand il est humain, est très dur et travaille beaucoup plus vite. Et donc en fait, là où un bûcheron manuel mettrait une semaine à faire une coupe, la batteuse va la faire en une journée. Et donc c'est à double tranchant parce que bon, à la fois c'est chouette d'avoir des bûcherons qui savent bien faire leur travail et qui prennent le temps de le faire, mais on sait aussi que c'est un travail très dur. Et on sait aussi que, enfin, on sait en tout cas aujourd'hui. Là, moi, par exemple, où je bosse dans l'Ain, on manque de bûcherons et on galère à trouver des bûcherons pour venir faire les travaux. Et donc, en fait, le recours à la batteuse vient aussi combler ce manque. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et ces abatteuses, en fait, si on leur prépare le terrain, c'est-à-dire si on prépare des chemins de cloisonnement pour qu'elles puissent passer, elles vont tasser le sol à un seul endroit, enfin sur ces chemins-là. Donc ça, c'est des zones qui vont être complètement perturbées, et ça va être très difficile d'y faire pousser quelque chose ensuite. Mais si elles ne roulent pas partout, si elles ne vont pas de partout dans la parcelle, elles vont faire des dégâts limités. Donc je dirais qu'il y a aussi une façon d'utiliser ces abatteuses qui n'est pas forcément catastrophique. Après, dans le cas des coupes rases, elles roulent de partout, le sol est tassé de partout, étant donné qu'elles enlèvent tout ce qu'il y a au sol, parfois même des souches, le sol est complètement ravagé, lessivé, donc ça a des conséquences écologiques graves et sur un siècle, quoi. Donc, Et donc ça, c'est en formation, en bûcheronnage en tout cas, on nous en parlait. Disons que ça faisait partie des itinéraires sylvicoles possibles. On peut travailler en régulier, en irrégulier, et on peut à certains moments pratiquer la coupe rase. Et souvent, on nous l'a présenté plutôt comme une solution en cas de problème sanitaire. Là, c'est ce qu'on a beaucoup vu et qu'on voit encore ces dernières années avec les attaques de scolytes, beaucoup dans l'est de la France. Et donc, là, quand ces petites bêtes commencent à être dans la parcelle, elles se répandent très vite. Une des solutions qu'on trouve, c'est de tout raser pour éliminer le problème et puis replanter en espérant que ça repousse. Mais bon, ça a vraiment ses limites aussi. Après, que ce soit dans la formation en bûcheronnage ou là actuellement en gestion forestière, le discours va quand même plutôt est quand même précautionneux vis-à-vis des abatteuses. Enfin, on parle de plus en plus des sols qui ont été les grands oubliés de l'histoire, et je crois que c'est un peu la même chose en agriculture. Disons que même la recherche est encore assez pauvre sur l'étude des sols. Enfin, on sait des choses, mais il y a plein de trucs encore qu'on ne comprend pas et qu'on ne prend pas en compte surtout. Et donc là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à changer.
Alors, je crois que, je ne sais pas s'il y a une dernière question, il y avait quelqu'un tout à l'heure devant, ou si on va bientôt... Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Merci. Vous l'avez évoqué un petit peu, c'est sur le changement climatique et les forêts, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on voit de plus en plus d'arbres fragilisés, mais qu'en est-il exactement ? Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ?
Oui, on parle de dépérissement des arbres. Il y a un dépérissement qui s'accélère un peu de partout en France. C'est vrai, enfin, ça existe, c'est en route. Ce dépérissement, il est dur, enfin, dans le sens où des vieux arbres meurent plutôt que prévu, parce qu'un vieil arbre peut devenir très vieux si on le laisse. Et là, en fait, il ne va pas arriver à ce moment-là de grande vieillesse, il va dépérir plus tôt. Et c'est dommage. En fait, souvent, c'est dommage d'un point de vue économique, parce que c'est des arbres qu'on va prélever, donc abattre, avant leur niveau max de volume et donc de gain. Là, je parle d'argent parce que c'est souvent un peu le non-dit de la discussion, c'est qu'on s'effraie du dépérissement des forêts parce qu'en fait, c'est de l'argent qu'on perd, c'est des arbres qu'on va couper trop tôt. Et en fait, s'il y a du dépérissement lié à la sécheresse, à des canicules successives, et ça fragilise les arbres qui ensuite se font attaquer plus facilement par des insectes ou par des champignons. Et donc voilà, là, il y a une accélération de ces phénomènes-là. Et ça fait qu'on va les arbres perdent de la valeur parce qu'ils sont déjà à moitié secs quand on les abat, ou alors on va les abattre trop tôt, et donc là c'est de la perte de valeur économique, et c'est ce qui effraie beaucoup la filière. D'un point de vue écologique, ces dépérissements amènent plein de possibilités aussi. Un arbre sec va être piqué par des pics qui vont créer des cavités qui vont ensuite servir à d'autres oiseaux, à des chauves-souris. Un arbre mort au sol qui se décompose, pareil, va attirer plein d'insectes différents, va être un refuge pour les batraciens. C'est aussi plein de... Enfin, ces dépérissements, c'est plein de possibilités écologiques qui existent dans des forêts qui sont dans leur dynamique naturelle, mais qu'on ne connaît pas. Les forêts qu'on dit primaires, en fait, c'est des forêts où il y a beaucoup d'arbres qui tombent aussi, mais qui tombent de leur belle mort, et qui engendre tout un cycle. Et si on garde ces cycles naturels-là, ça fait aussi que la présence de certains insectes va attirer certains oiseaux qui vont être à même de potentiellement manger d'autres insectes qui sont des ravageurs. Et donc il y a un équilibre qu'on peut trouver normalement avec un bon taux de dépérissement et de pousse, quoi. Donc, en fait, si on n'est pas dans des préoccupations économiques, on peut observer là ces dépérissements et se dire, ben, regardons ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est aussi un arbre qui tombe, c'est de la lumière qui rentre et c'est de la place pour des semis qui poussent en dessous. Ça marche s'il n'y a pas un déséquilibre de gibier aussi. Ça, c'est rarement le cas. On est dans beaucoup de déséquilibres aujourd'hui en France. Aussi, ce qu'on constate, si on est un peu patient, c'est qu'un arbre, on regarde à sa cime pour voir s'il dépérit. C'est les branches mortes vraiment du haut de sa cime, quoi. Donc souvent, on va voir que voilà, toute sa cime est en train de dépérir. On se dit, ah, mal barré. Par contre, on voit qu'il fait ce qu'on appelle un second houppier, c'est-à-dire que le long de son tronc, il va refaire des branches. Donc ça, bon, ça dévalorise l'arbre économiquement, parce que ça va faire des nœuds, et donc c'est toute une zone de l'arbre qu'on ne pourra pas utiliser pour de la menuiserie, par exemple, donc on va perdre de l'argent. Mais au niveau de sa vitalité, ça fonctionne, parce qu'il refait des branches, donc il refait des feuilles, il va pouvoir choper de la lumière, refaire de la photosynthèse, absorber du sucre. Et voilà, donc ça dépend un peu sous quel angle on se place. Et puis au niveau du renouvellement des essences, c'est pareil. Il y a différents scénarios. Il y en a qui disent le hêtre est en train de disparaître de France. Bon, c'est pas dit. La génétique s'adapte. Ça crée des paysages un peu désolés de voir ces arbres qui dépérissent. Mais si on regarde un peu dans le détail, les semis au sol, les seconds houppiers, tout ça, bon, on se dit que c'est pas foutu, quoi.
Merci. Alors on va être, je crois, obligé de clore cette rencontre. Simplement pour merci en tout cas pour votre écoute, Anouk, pour se quitter. Donc on peut retrouver ton premier livre, Félix Silvestris, à la librairie, Copeaux de bois. Et tout cela va former un triptyque. Tu parlais des peuples de la forêt. Le premier, les résistants, les militants qui défendent la forêt. Le deuxième, les travailleurs de la forêt. Et tu es déjà en train de travailler sur le troisième volet de ce triptyque. Quel est le troisième volet de ces peuples de la forêt ici en France?
C'est une fiction, donc c'est pas vraiment un peuple, mais c'est il y a une histoire d'ermite de compagnie dans une forêt en ville. Voilà. Là, je travaille là-dessus en ce moment. Et en parallèle, je travaille aussi avec un groupe de forestiers et de forestières qui racontent leur métier. Donc ça, c'est un projet que je coordonne un peu en tant qu'éditrice et pas en tant qu'écrivaine. Mais ça sera plutôt une sorte de prolongation de Copeaux de bois avec d'autres voix que la mienne.
À suivre donc. Merci. Bonne journée à tous.
Merci à vous.
Tu vas faire des dédicaces en sortant. Donc n'hésitez pas, il peut y avoir des prolongations plus informelles.